Bonjour à tous chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans cette 5e édition. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce mercredi 30 janvier 2019. Toute l'équipe est prête. Au sommaire d'aujourd'hui, vous l'avez peut-être aperçu en pleine nuit, aux alentours de 4h du matin, je parle bien sûr de l'éclipse lunaire qui a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Le 22 janvier, Louane et Doane vont nous expliquer ce fameux phénomène. La reprise de la pêche de la baleine au Japon qui fait polémique depuis quelques semaines, Louise et Lina vont nous expliquer plus en détail. Damien nous parlera de bonbons qui piquent, pourquoi les ados les aiment tant. Après de longues recherches et des jours d'enquête, il nous répondra à cette question. C'est l'un des films les plus connus du XXe siècle, Retour vers le futur, Théo et Emma nous en parleront. Toujours côté cinéma, Lina et Roman nous présenteront le nouveau volume tant attendu. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ? Leurs attentes, leurs envies, c'est dans quelques instants. Et puis pour terminer, la fameuse chronique des sports de Martin. C'est un phénomène qui s'est produit cet été, mais aussi dans la nuit de dimanche lundi, le 22 janvier. L'éclipse lunaire, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi la lune est rougeâtre à ce moment-là ? Vous allez nous expliquer tout cela, Doan et Louane. C'est à vous.
Chronique scientifique.
Aujourd'hui, nous allons parler d'une éclipse lunaire, dont on a parlé dans les infos, sous le nom de lune de sang. En effet, la pleine lune s'est donnée en spectacle la nuit du 21 janvier dans la moitié du monde, notamment de la Sibérie aux Amériques. Du nord au sud du continent, l'éclipse a été visible dans sa totalité par les habitants qui ont mis le nez dehors, quand la météo a été favorable, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'une éclipse lunaire, Louane ?
Comme tu le sais, la lune tourne autour de la Terre et la Terre tourne autour du Soleil. Plusieurs fois par an, il arrive que les trois astres soient alignés pendant un laps de temps, ce qui provoque d'étranges phénomènes. Lors d'une éclipse lunaire, la Terre se situe entre la Lune et le Soleil. Elle empêche donc le Soleil d'éclairer la Lune. Dans ce cas, la Lune n'est plus blanche et lumineuse. Elle est en fait dans l'ombre de la Terre. Un peu comme quand tu as le Soleil dans le dos, ton ombre se projette sur le sol. Là, c'est un peu la même chose. L'ombre de la Terre se projette sur la Lune.
Mais pourquoi a-t-elle été appelée Lune de sang ?
En fait, un peu de la lumière du soleil traverse l'atmosphère terrestre et parvient à éclairer les contours de la lune. Ces rayons ont la particularité d'être de couleur rouge. C'est pour cela qu'une auréole rouge-orangée a entouré la lune.
J'ai cru comprendre que les éclipses lunaires ont lieu au moins une ou deux fois par an. Mais pourquoi parler davantage de cette éclipse-là ?
Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une éclipse totale. Et ça, c'est rare. Celles dont tu parles sont les éclipses partielles. La deuxième, c'est que c'était la dernière éclipse totale de la Lune de la décennie.
Il n'y aura pas d'autres éclipses avant longtemps ?
Si, Doane. Tu peux déjà noter pour ne pas oublier l'éclipse partielle de la Lune de cet été, le 16 juillet. Mais celle-ci ne sera pas rouge, car justement, elle sera partielle.
Et la prochaine éclipse, au total, aura lieu quand ?
Dans 10 ans.
Dans 10 ans ? Mais je serai déjà vieux !
Non, rassure-toi. Le 20 décembre 2029, tu seras encore un jeune homme. Même si tu ne peux pas attendre, tu peux prendre un billet d'avion pour l'autre côté du monde, où la prochaine éclipse totale aura lieu en 2021.
Mais toi, Louane, qui nous a appris tant de choses ? Savais-tu que lors de cette éclipse totale du 21 janvier dernier, des chanceux ont pu assister en prime et en direct à l'impact d'une météorite sur la surface de notre satellite, la Lune ? Incroyable, non ? Deux événements cosmiques en une seule nuit.
Et dire que je dormais, je n'ai rien vu.
Rassure-toi, plein d'images superbes et de vidéos sur Internet, tu vas pouvoir te rattraper.
Merci, Doane, pour l'info.
Nous espérons que notre chronique vous aura intéressé.
À la prochaine et à bientôt.
Eh bien, merci à vous deux. Maintenant, on sait tout grâce à vous.
Chronique scientifique.
Cela fait polémique depuis plusieurs mois, la reprise de la pêche de la baleine en juillet prochain au Japon. Y a-t-il un danger ? Louise et Lina, c'est à vous.
Ici et ailleurs.
Bonjour. Bonjour, je vais vous parler des baleines, cet animal extraordinaire qui porte toutes les mémoires de la Terre. Et je vais vous parler des baleines car je suis inquiète pour elles. Et oui, il s'agit de parler plus précisément de la chasse des baleines, et ceci en deux dates. Le 23 janvier, le Japon a annoncé de quitter la CBI, Commission Baleinière Internationale, afin de reprendre la chasse commerciale aux baleines. Une décision qui a provoqué une immense tollée internationale. Une tradition qui remonte au XIIe siècle. C'est au XIIe siècle, selon l'Association japonaise de la chasse à la baleine, que les pêcheurs du Japon commencent à capturer ces animaux marins au harpon. À l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, le Japon est exsangue. Il manque de nourriture et la chair de baleine est salvatrice, source de protéines. À l'apogée de la chasse dans les années 1950, environ 2000 baleines sont débarquées au port chaque année. 2018 menace et annonce le retrait de la CBI. En septembre 2018, la CBI rejette la proposition japonaise de voir la gestion de différents types de pêche au sein de la CBI dans le but avoué de reprendre la chasse à la baleine dans un but commercial. Le gouvernement nippon menace alors de quitter l'instance internationale. Le 26 décembre, le Japon menace son retrait de la CBI et la reprise de la pêche commerciale dès juillet 2019. J'espère que ma chronique vous a plu. Je vous retrouve après les vacances et à bientôt, chers auditeurs.
Merci les filles pour ces informations.
Ici et ailleurs.
Pourquoi les ados aiment tant les bonbons qui piquent ? Damien s'est penché sur le sujet, je te laisse la parole.
On a dit ado, la rubrique qui parle des ados.
Bonjour à tous, je vais vous présenter une chronique sur les bonbons qui piquent. Comme vous le savez, nous, les ados, on adore ça. Et pour les adultes, c'est un mystère. Des scientifiques se sont penchés sur la question. Si, si. C'est sûr qu'on peut s'interroger. Saviez-vous que l'on consommait environ 6,8 kg de bonbons et confiseries par seconde en France, soit 214 500 tonnes par an? Incroyable, non? C'est donc un commerce particulièrement florissant. Ainsi, la pub pour les bonbons est-elle très étudiée? Les scientifiques, encore eux, disent que c'est pour ça que les ados en achètent. C'est sûr que les marques présentent leurs bonbons comme les plus acides du monde. Les bonbons acidulés promettent d'arracher la tête ou de secouer les neurones. C'est tentant, vous ne trouvez pas? Et puis on ne veut pas être moins que les copains qui avalent ces bonbons-là sans grimace.
Eh bien, merci Damien, on sait pourquoi on aime ça maintenant.
On a dit ado, la rubrique qui parle des ados.
C'est l'un des films les plus connus du XXe siècle, Retour vers le futur. Bonjour Théo et Emma, alors de quoi allez-vous parler dans cette chronique? C'est la question qu'on se pose, c'est à vous.
Nos coups de cœur.
Aujourd'hui avec Théo, on va vous présenter une chronique sur une des trilogies les plus connues du cinéma. Je pense que vous l'avez reconnue à la musique d'intro, Retour vers le futur.
Retour vers le futur est une trilogie produite par Steven Spielberg et réalisée par Robert Zemeckis, le réalisateur de Forrest Gump.
Cette trilogie raconte l'histoire de Marty McFly, joué par Michael J. Fox, qui est un adolescent des années 80. Il aime le skate et le rock'n'roll. Il est ami avec un docteur fou, le docteur Emmett Brown, qui est accompagné de son chien Einstein. Ce docteur a inventé une machine à voyager dans le temps.
Le premier volet, sorti le 30 octobre 1985 en France, se passe dans les années 80, au début pour mettre en place la vie des personnages dans le présent. Ensuite, à 1h du matin, Marty rejoint le doc sur le parking des deux pins, car il a quelque chose d'important à lui montrer. Ce quelque chose est une DeLorean qui sert à voyager dans le temps. Mais malheureusement, des terroristes libanais viennent se venger du doc qui leur a joué un mauvais tour. Pour leur échapper, Marty monte dans la DeLorean et atteint les 88 miles à l'heure, vitesse qui permet de voyager dans le temps. Il se retrouve alors propulsé dans les années 50, l'année de rencontre de ses parents. Malheureusement, un événement va compliquer cette rencontre qui peut être fatale à Marty.
Le second volet se passe enfin dans le futur comme l'annonce le titre. Le film débute avec la scène de fin du premier volet où Doc avertit Marty et Jennifer qu'ils ont un rôle à jouer pour leur avenir, enfin plus précisément celui de leur fils. Marty, le Doc et Jennifer sont propulsés en 2015, un 2015 très imagé avec plein de technologies. Marty va devoir sauver son fils, une mauviette qui se fait harceler par le petit-fils de Biff Tannen. En même temps, Marty a une idée, acheter un almanach pour connaître tous les résultats sportifs, Sauf que Biff Tannen l'attrape et le donne à lui-même. Enfin, le lui-même des années 50. Marty devra donc régler les deux problèmes en même temps.
Le troisième volet est un nouveau rebondissement. Un nouveau rebondissement temporel. À la fin du deuxième volet, après la désintégration de la DeLorean dans un éclair, Marty McFly s'est retrouvé coincé en novembre 1955.
En effet, il y reçoit une lettre de Doc lui indiquant qu'il vit désormais dans le Hill Valley de 1885, en plein Far West, l'accident temporel l'ayant conduit à cette époque. Il a caché la DeLorean dans une grotte pour permettre à Marty, en 1955, d'aller déterrer la voiture et de regagner son époque. Cependant, Marty découvre que le Doc va être tué une semaine après l'envoi de la lettre. Il rejoint alors son ami dans le vieux Far West pour le sauver.
Oh là là, et il y a un quatrième volet ?
Mais non, je t'ai dit que c'était une trilogie.
Ah, c'est vrai, mais à quel moment sommes-nous là ?
En 2019, Théo, et nous faisons notre chronique.
Je le sais bien, Emma, je voulais juste te faire enrager.
Alors retour au temps présent et à la prochaine.
Salut !
Merci pour ce magnifique voyage.
Nos coups de cœur.
Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, sorti en 2014, fait son retour pour 2019. Noah et Roman sont là, vous allez nous en parler, c'est à vous.
Agenda culturel.
Vous en vous souvenez forcément. La comédie française de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu est sortie le 16 avril 2014. Peux-tu m'expliquer un peu ce que cela raconte ?
Bien sûr, traitant du racisme et du mariage mixte sur le ton de la comédie. Le long métrage raconte l'histoire d'un couple de bourgeois catholiques, incarné par Christian Clavier et Chantal Lobby. Ce couple voit ses convictions mises à mal lorsque trois de ses quatre filles se marient l'une après l'autre avec des hommes d'origine différente. Et que la quatrième, en qui ses parents fondent leur espoir, tombe amoureuse d'un catholique d'origine ivoirienne. Ce film a eu un véritable succès, un tel succès que les producteurs ont poussé à créer le deuxième volet de cette comédie qui sortira le 30 janvier.
Claude et Marie Verneuil sont de retour. Ils font face à un nouveau cataclysme. Leurs quatre filles et leurs quatre gendres veulent quitter la France. Odile et David veulent partir en Israël. Chao et Ségolène en Chine. Isabelle et Rachid en Algérie, tandis que Laure et Charles veulent partir en Inde, car Charles veut faire une carrière à Bollywood. Claude et Marie vont alors tout faire pour que tous les membres de la famille restent en France. De leur côté, André et Madeleine Coffey, les parents de Charles, sont de retour en France pour le mariage de Viviane, leur fille, mais là non plus, tout ne sera pas comme prévu.
J'espère que cette chronique vous aura plu,
et bonnes vacances.
Merci à vous les filles.
Agenda culturel.
La chronique des sports présentée par Martin.
Et maintenant, la rubrique des sports.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique des sports. Aujourd'hui, je vais présenter les championnats du monde de handball qui ont lieu du 10 au 27 janvier en Allemagne notamment, mais aussi au Danemark. C'est une compétition organisée par la Fédération Internationale de Handball, IHF. Elle réunit les meilleures sélections nationales. Des phases de qualification pour les nations non qualifiées avant le début de ce championnat du monde ont eu lieu, ainsi que pour les autres équipes directement qualifiées comme la France, tenante du titre, ou encore l'Espagne, vainqueur des derniers championnats d'Europe, ne sont pas passés par ceux-là pour en arriver là. Mais outre des championnats du monde dans deux pays différents, on peut voir aussi une équipe de Corée unifiée, donc Corée du Nord et Corée du Sud, forment une seule et même équipe. Mais maintenant, ces championnats du monde terminés, votre seule envie est de savoir qui a été le grand vainqueur de cet événement handballistique. Alors, le vainqueur de ces championnats du monde de handball est... Le Danemark, équipe victorieuse face à la France, qui finit d'ailleurs 3ème de ce tournoi, et à la Norvège en finale, ce qui leur permet maintenant d'avoir le titre de champion du monde, ce titre qui a été sous l'emprise de la France 4 fois dans les 6 dernières éditions. C'est donc sur ces mots que je vous laisse et vous souhaite une bonne après-midi.
Merci Martin.
Et maintenant, la rubrique des sports.
Et voilà, c'est la fin de cette 5ème édition. Merci de nous avoir suivis sur Radioactive. On se retrouve très bientôt.
Oui.